RCF.
Ai-je besoin de vous présenter la personne qui arrive pour les infos de 6h30? Bonjour Thomas Dulin.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et tout d'abord Thomas, les députés ont élu leur nouvelle présidente.
Yaël Braun-Pivet devient la première femme à la tête de l'Assemblée nationale. Elle appelle l'hémicycle à avancer ensemble au service de la France. Après quasiment 150 jours d'audience, le procès historique des attentats du 13 novembre s'achève donc ce soir. La cour d'assises spéciale va rendre un verdict attendu avec confiance par les victimes. La Suède et la Finlande vont pouvoir adhérer à l'OTAN. La Turquie lève finalement son veto. Le sommet de l'Alliance Atlantique qui se poursuit à Madrid, les pays membres discuteront stratégie militaire face à la Russie. Et puis à partir de 2023, vous pourrez envoyer une lettre par la poste sans coller de timbre. Vous entendrez tous les détails en fin de journal. Elle a 51 ans, encore novice en politique en 2017 et assez peu connue du grand public. Yaël Braun-Pivet a donc été élue par les députés présidentes de l'Assemblée nationale hier avec 242 voix. L'ancienne présidente de la commission des lois et éphémère ministre des Outre-mer devient donc la première femme à accéder au perchoir dans une configuration assez inédite à l'Assemblée nationale puisque son camp réuni sous la bannière Ensemble ne détient pas la majorité absolue. Elle a donc appelé à dépasser les division lors de son tout premier discours dans le fauteuil de présidente.
Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Ils nous ont choisis, ils nous ont élus et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité. Celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens. Notre Assemblée, j'en ai la conviction, doit être une chance pour notre pays. Elle le sera, je n'en doute pas, si nous choisissons la voie du dialogue. J'en serai la garante exigeante. Ce dialogue sera la fondation sur laquelle nous pourrons bâtir du consensus, des compromis. Les travaux transpartisans, l'échange, la collégialité ont été notre marque de fabrique.
La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Après la ministre de la Santé, autour de la chef du gouvernement d'appeler les Français à rester vigilants face à la reprise épidémique du Covid, Elisabeth Borne recommande sans caractère obligatoire pour le moment de porter le masque dans les transports en commun, les espaces de promiscuité et les lieux clos. Elle souhaite aussi le retour des gestes barrières, lavage de mains, aération des intérieurs. Près de 150 000 nouveaux cas de Covid détectés hier, plus de 50% d'augmentation par rapport à la semaine dernière. Toujours au chapitre Covid, la justice met explicitement en cause la gestion du début de la crise sanitaire par les autorités, après avoir été saisie une trentaine de fois. Souvenez-vous, en 2020, après le premier confinement, les masques sont rapidement en rupture de stock et leur port n'est pas rendu obligatoire immédiatement. Dans une décision rendue hier, le tribunal administratif de Paris estime que l'État a commis une faute. Aucune condamnation en revanche. La justice assure que ces manquements ne peuvent expliquer à eux seuls la propagation de la maladie. Les plaignants ne seront donc pas indemnisés.
Le verdict sera rendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre.
Après 10 mois d'une audience hors normes et historique, les magistrats de la cour d'assises spéciale de Paris rendront leur décision et les 14 accusés présents seront fixés sur leur peine. La fin d'une aventure judiciaire mais aussi humaine pour les proches des 130 victimes décédées, sans compter les centaines et les centaines de blessés du Stade de France, des terrasses et du Bataclan durant cette soirée d'horreur de novembre 2015. Arthur Desnouveaux est le président de l'association de victimes Life for Paris, rescapé du Bataclan. Il attend le verdict avec confiance.
J'attends du verdict qui soit juste et que donc on juge bien avec notre code pénal et qu'on ne juge pas avec un code pénal spécial 13 novembre. Et donc ça fait vraiment que je suis tout à fait au clair avec moi-même, que ça ne me dérangerait pas qu'une partie des complices les plus éloignés ressorte libre. Ça fait partie des probabilités, voire même des probabilités assez fortes, et j'ai pas de problème avec ça. Ensuite, moi-même, plus globalement que ça, à partir du moment où la justice s'est saisie du dossier et où on a constitué cette cour pour juger, en fait, le jugement me revient pas et je suis très à l'aise avec ça. Je suis content qu'il y ait un verdict, mais je veux vraiment pas trop me plonger dedans. Que j'aurais l'impression en faisant ça, soit de devenir le juge de mes bourreaux, soit de commencer à ressombrer dans une envie de vengeance. Et donc, moi, je suis très à l'aise avec le verdict, quel qu'il soit. C'est de donner tous les moyens pour qu'il soit juste. C'est des magistrats professionnels qui jugent. J'ai confiance.
Arthur Desnouveaux, président de l'association de victimes Life for Paris. On reviendra donc en longueur dans le dossier de la rédaction à 7h13 sur la fin de ce procès historique des attentats du 13 novembre et le verdict attendu ce soir. Le salaire de près de 6 millions de fonctionnaires va augmenter à compter du 1er juillet. Le gouvernement a confirmé hier la hausse du point d'indice de 3,5%, à laquelle vient s'ajouter l'augmentation moyenne annuelle d'1,5%. Ce coup de pouce ne convainc pas les syndicats de la fonction publique. Ils estiment que l'inflation, qui a atteint 5,2% au mois dernier selon l'INSEE, ne sera pas couverte.
Une inflation qui se vérifie, Thomas, aussi sur les prix des repas dans les cantines scolaires.
La moitié des communes du pays seront concernées par une hausse de 5 à 10% selon l'Association des maires de France. Pour rappel, ce sont les municipalités qui fixent les tarifs dans les cantines. Cette augmentation est une conséquence directe de l'inflation, on le disait, mais aussi de la guerre en Ukraine ou encore de la grippe aviaire. Une situation qui inquiète les différents acteurs du secteur, Tanguy Roman Clavelou.
Les familles les plus modestes sont les premières touchées par cette hausse des prix dans les cantines. Et la crise est partie pour durer, selon Emmanuel Garraud, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public.
On sait d'ores et déjà qu'il y a eu une augmentation, que cette augmentation est toujours en cours. Quand cessera-t-elle ou atteindra-t-elle un plateau? Ça, personne ne le sait et c'est ce qui rend plutôt inquiet.
Pour leur venir en aide, Gilles Pérol propose une répartition selon le revenu des familles. Il est coprésident du groupe de travail Restauration scolaire de l'Association des maires de France et adjoint dans la commune de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes.
Il y en a qui, comme Mouans-Sartoux, ont un tarif au quotient familial et donc on impacte beaucoup moins fort les revenus les plus faibles que les revenus les plus élevés et donc les familles les moins aisées le paieront 2,20 euros et les familles les plus riches le paieront 8 euros. Oui.
Et pour limiter l'augmentation des prix, certaines cantines se tournent vers des produits moins chers, de moins bonne qualité. Une fausse bonne idée pour Gilles Pérol.
Il faut plus aller vers des solutions plus vertueuses qui sont acheter la bonne quantité, diminuer le gaspillage alimentaire, diversifier les protéines et peut-être organiser différemment ses achats en allant le plus possible vers des achats directs aux producteurs.
C'est le cas à Mouans-Sartoux où la mairie emploie 3 agriculteurs dans la ferme de la commune pour alimenter les cantines scolaires et limiter les intermédiaires.
Tanguy Roman Clavelou.
À l'international, la Suède et la Finlande vont finalement bien pouvoir rejoindre l'OTAN et ainsi mettre un terme à leur neutralité historique.
Et oui, la Turquie, qui s'opposait à leur adhésion, a finalement levé son veto, annonce hier du président Erdogan, alors que le sommet de l'Alliance Atlantique se poursuit jusqu'à demain à Madrid. La guerre en Ukraine, évidemment au cœur des discussions et particulièrement l'organisation de la force de réaction des 30 pays membres. Elle représente aujourd'hui environ 40 000 hommes. Elle va être renforcée pour atteindre les 300 000. Eli Tenenbaum est le directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI.
Vous avez un nouveau scénario qui n'existait pas depuis la fin de la guerre froide, celui potentiellement d'une confrontation directe en Europe même et d'une défense territoriale. Vous basculez sur un scénario dans lequel toutes les forces armées des pays de l'OTAN devraient être mises à contribution et sous commandement intégré si on venait à basculer dans le temps de guerre. Et donc là, effectivement, ce qui va être vraisemblablement adopté à Madrid, c'est de dire, dans ce type de scénario, on prendrait beaucoup plus large, 300 000 hommes, sur la capacité de défense territoriale des pays de l'OTAN s'ils venaient à être attaqués, mais non pas pour être projetés quelque part loin de leur base. Une augmentation considérable du nombre d'hommes qu'on pourrait mettre sous commandement OTAN si l'occasion venait à se présenter.
Le sommet de l'OTAN qui doit envoyer un message d'unité et de force, a déclaré hier le président Emmanuel Macron. Face à cela, la Russie maintient sa pression sur l'Ukraine. Le pays n'arrêtera son offensive qu'en cas de capitulation de Kiev, affirmait hier un porte-parole du Kremlin. Le président Volodymyr Zelensky, de son côté, a une nouvelle fois réclamé que la Russie soit expulsée de son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.
Et puis on termine, Thomas, avec une petite révolution qui n'enchantera probablement pas les philatélistes.
Eh oui, Simon, oubliez le vieux timbre en papier dentelé, voici venu l'ère du timbre digital. La Poste a annoncé hier une évolution majeure dans les méthodes d'affranchissement du courrier. Alors concrètement, quelle sera la procédure, Magali Santulli ?
Eh bien, dès le début de l'année 2023, il faudra vous munir de votre smartphone et vous rendre sur l'application mobile de La Poste. Vous pourrez alors acheter sur la plateforme votre timbre digital avant de recevoir un code à 8 caractères. Vous n'aurez plus qu'à recopier au stylo cette suite de chiffres et de lettres en haut à droite de l'enveloppe, en lieu et place du timbre papier. Alors, pas d'inquiétude, les adeptes du petit bout de papier dentelé et les fâchés des écrans auront toujours la possibilité d'affranchir leur carte de vacances et leur lettre d'amour avec l'inégalable timbre vert qui restera en vente. Mais avec cette numérisation des démarches, la Poste veut moderniser son fonctionnement et attirer un jeune public qui s'éloigne progressivement de l'envoi postal. En 10 ans, le nombre de bureaux de poste a d'ailleurs considérablement diminué, passant de 10 000 en 2012 à moins de 7 000 aujourd'hui.
Les précisions de Magali Santulli. On termine avec du sport, un petit tour et puis s'en va pour Serena Williams. La reine du tennis était de retour sur les courts hier après un an d'absence suite à des blessures. Eh bien, l'américaine s'est fait éliminer dès le premier tour de Wimbledon face à une Française, Harmony Tan. Très belle rencontre qui s'est terminée au super tie-break après plus de 3 heures de combat. Petite déception pour Serena Williams, hein, dont l'annonce du retour avait créé l'événement à Wimbledon, même si la tenniswoman n'a plus grand chose à prouver avec 23 tournois du Grand Chelem à son palmarès. Elle est tout simplement la joueuse la plus titrée de l'histoire, Simon. Ouais.